victoria à la vallée.
Je disais bravo. Merci à tous. Merci le staff. Merci le studio. Merci tout le monde. Merci la main. Merci même.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, nous allons écouter dans quelques minutes, dans quelques secondes, nos amis de La Rage Dedans. L'émission aujourd'hui, c'est le chant des hommes. La Rage Dedans reçoit le médecin écrivain Giovanni Michel Del Franco, fondateur de la maison d'édition Le Chant des Hommes, pour parler de ses ouvrages consacrés à Bui, la dernière Apache libre. En avril 1932, une fillette d'environ 4 ans est capturée dans la Sierra Madre au Mexique. Elle est Apache et sa grand-mère vient d'être tuée sous ses yeux, comme au temps des guerres amérindiennes du 19e siècle. Son histoire est racontée par Giovanni Michel Del Franco. Je vous souhaite une bonne écoute. Oh là, quelle galère ce truc-là.
Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en 1027, peinture rouge et l'urée d'un gars, sans oublier de Lafayette, ils vous diront, il faut avoir un grain, c'est clair et net, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que j'étais saint, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tard, cela peut arriver au prophète, Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi casse les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, avant que je perds la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et moi je jouais le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. Moi interdit le territoire, j'ai fait appel à Marceau Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entendit d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. D'un rythme de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges, ceux qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour, j'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, s'agit des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Chers auditeurs de La Rage Dedans, Nous sommes de retour après 15 jours d'absence. Aujourd'hui, je reçois Giovanni Michel. Giovanni, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous allons parler amérindien. Et le chant des hommes. Donc, Giovanni Michel, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, me présenter plutôt, parler de mon travail.
Oui.
L'écriture, en fait, m'accompagne depuis toujours, quasiment.
31 livres, quand même.
31 livres. et d'autres qui ne sont pas publiés, qui sont dans mes cartons. Et puis, la passion pour les Amérindiens, de la même façon, m'accompagne depuis, ma plus tendre enfance. Je ne me souviens pas de moments où je n'ai pas écrit, ni de moments où je ne me sois pas intéressé aux Amérindiens. J'ai des souvenirs... À l'âge de 7 ans, j'avais acheté un album Panini. Je ne sais pas si ça existe
oui,
encore, les images
c'est...
Panini.
Alors, Panini, mais les images que collectionnent les jeunes, oui, toujours.
Et donc, c'était un album qui était consacré aux Indiens d'Amérique. Et je me l'étais acheté. Je connaissais à 7 ans les noms de tous les personnages qu'il y avait dans cet album. Je sais parce que j'ai retrouvé l'album dans le grenier de mes parents il n'y a pas très longtemps. Ensuite, je me suis un peu tourné au tout début de l'écriture vers beaucoup de poésie et de nouvelles, qui, comme chacun sait, ne se rendent pas du tout. Donc, j'ai essayé de les faire éditer et c'était un fiasco total. Les années passant, j'ai écrit aussi sur le village italien de mon père. Et en 1999, quand j'y suis allé, la municipalité m'a encouragé à faire de mon travail préparatoire un livre en me disant « En 2000, c'est le jubilé, c'est l'occasion de publier un ouvrage achevé. » Et j'étais un peu pris par le temps. Je me suis dit que je ne trouverais jamais un éditeur qui voudrait publier un bouquin sur un village italien. Donc je l'ai fait moi-même et c'est à cette époque que j'ai créé donc mes éditions « Le Chant des Hommes ». Et mon premier livre publié en 2000 était donc sur le village italien de mon père, en version française et en version italienne. Et étonnamment, il s'est beaucoup plus vendu en France qu'en Italie.
Comme quoi ?
Il faut croire que les Français sont plus intéressés par le sud de l'Italie que les Italiens eux-mêmes. Peut-être parce que les Italiens eux-mêmes connaissent mieux leur histoire. Mais j'étais un peu piégé parce qu'il y a eu 4 ou 5 livres qui avaient été publiés sur le même sujet la même année, parce qu'ils avaient dit ça à tout le monde, je suppose. Donc c'était le début de mon aventure éditoriale, et puis depuis, voilà, comme vous le disiez, j'ai fait 31 livres, dont une bonne partie sont consacrés à mon autre passion de toujours, les Amérindiens.
Alors, les Amérindiens, on va commencer par le premier ouvrage.
Oui.
Je m'appelais Bui, la dernière Apache libre, publiée en 2019. Alors, Bui, elle est née en 1928 dans la Sierra Madre mexicaine. Elle est décédée le 5 octobre 1976 à Umbertide, en Ombrie, en Italie.
Tout à fait.
Alors, qui est Bui ? Qui était Bui pour tout ? Pardon.
Alors, si je peux revenir un peu en arrière, en fait, j'avais écrit beaucoup de livres sur certains chefs apaches, des chefs peu connus. Je m'intéresse beaucoup à des personnages peu connus. Et j'ai écrit un bouquin de synthèse qui s'appelait « Combat apache ». Et je dédiais le dernier chapitre à une histoire un peu mystérieuse. Une partie des Apaches avait survécu dans la Sierra Madre mexicaine, là où est né Bui. Et c'est une histoire très peu connue qu'on voit dans des entrefilets, dans les bouquins généralistes. Et je me suis donc documenté, j'ai sorti un ouvrage sur ce peuple de Sierra Madre. Et j'ai été frappé par l'histoire de cette femme. Sur laquelle il y a très peu de documents et qui a été capturée en 1932 dans la Sierra Madre mexicaine et qui donc a fini sa vie en Italie comme vous le disiez et l'Italie c'est donc le pays de mon père et je me suis demandé comment une Apache née dans le nord-ouest du Mexique a pu finir sa vie dans le pays de mon père et ma fascination est née de là. Et je me suis donc penché sur sa vie qui est dramatique. Elle est née, on pense, en 1928, mais évidemment, il n'y avait pas de
registre.
D'acte de naissance chez les Apaches. Donc, c'est parce que quand on l'a capturée, elle avait environ 4 ans. Mmh. Elle a été capturée dans des circonstances dramatiques. Les Mexicains quadrillaient la Sierra Madre et à la recherche des derniers Apaches survivants. Et le contremaître d'un ranch voisin est tombé sur un petit campement où il y avait une femme âgée et cette fillette. Il a tiré sur la femme âgée et puis il a capturé la petite fille. Comme il ne savait pas trop quoi en faire, il l'a ramenée au ranch dont il était l'employé. Et il se trouve que les patrons de ce ranch... un couple de ce ranch, parce que c'était ils étaient trois associés, étaient sans enfants. Et ils s'étaient persuadés qu'ils ne pourraient pas avoir d'enfants. Donc ils ont adopté cette fillette, qu'ils ont rebaptisée Carmela. Mm-hmm. Carmela Harris, Harris étant le nom de ses parents adoptifs.
Et ils ont eu une fille après Carmela.
Et comme souvent... L'adoption a déclenché, si je puis dire, une grossesse chez la maman adoptive, qui est donc tombée enceinte peu après, d'une enfant qui s'appellera Anne. Et ils ont décidé, du coup, de quitter le Mexique, parce que les conditions sanitaires dans un petit village des montagnes mexicaines n'étaient pas terribles. Ils sont allés d'abord s'installer à Douglas, qui est une ville frontalière, et puis ensuite ils sont allés à Los Angeles, où la mère adoptive de Bowie travaillait pour les studios d'Hollywood. Mmh. Donc elle a grandi à Los Angeles, elle a passé son adolescence là-bas, la majeure partie de sa vie d'adulte, et en 1972... elle est allée une première fois en Italie, où sa sœur adoptive, Anne, s'était établie avec son mari, son mari était peintre, donc le beau-frère de Bowie était peintre. Et il y avait des résidences d'artistes en Europe. Et ils se sont installés donc à côté de Pérouse, dans cette ville, Umbertide. Mmh. Et ils étaient un peu inquiets par le devenir de leur maman, qui était âgée. Et du coup, ils ont fait venir à la fois la maman adoptive et Bowie en Italie pour un premier séjour en 1972. Et puis, ils ont décidé de les faire venir définitivement. Donc, Bowie et sa mère sont venus en 1974 s'installer définitivement dans ce petit village italien.
Bon, alors moi ce que je voudrais, Giovanni Michel, c'est que vous parliez plus largement des Apaches. Pourquoi les Apaches et pourquoi une telle fascination pour ce peuple? Parce que ce sont des guerriers et ce sont des résistants. Et Bowie est une héroïne, vous l'avez décrit. Et les deux ouvrages que vous nous consacrez, le premier c'est « Je m'appelais Bowie, la dernière Apache libre » et le deuxième, vous lui donnez la parole, c'est-à-dire que vous reconstituez sa vie. C'est Chi Dizé, petite sœur.
Petite sœur en Apache.
Oui. Voilà. En quoi les Apaches ont quelque chose de fascinant pour vous?
Alors,
et pour nous, donc, du coup.
Les Amérindiens en général. Mm-hmm. Mais, alors pourquoi, je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication rationnelle. Ce que je sais, c'est qu'encore une fois, c'est depuis mon enfance. Comme on ne peut pas connaître tous les peuples amérindiens, comme il y avait un reportage qui était paru sur Arte qui s'appelait 500 nations.
Oui.
Et il y a effectivement environ 500 peuples différents. Il est impossible
de tous les connaître.
Donc, je me suis intéressé à la fois aux Indiens des plaines, donc qui sont très, on parlera peut-être un peu tout à l'heure, qui sont très loin de la culture Apache, et aux Apaches parce que les Sioux, comme les Apaches, sont les derniers à avoir résisté à l'invasion nord-américaine.
Tout à fait. Je pense à un film qui en parle avec émotion, Little Big Man, avec Dustin Hoffman.
Tout à fait. Alors, Little Big Man, ça se passe chez les Cheyennes, auxquels voilà. Je me suis intéressé aussi, d'ailleurs. Voilà. Alors, pourquoi les Apaches? Il y a toujours la figure... Il y a la figure de Geronimo qui est connue de tout le monde, et qui n'était pas forcément le plus sympa. C'est le plus connu parce qu'il a résisté à la fin, avec 38 personnes, à 4000 militaires américains d'un côté et 3000 mexicains de l'autre, pendant les 6 derniers mois de sa lutte. Et il n'a jamais été vaincu ni capturé. C'est lui qui a choisi de se rendre. Mm-hmm. Donc il y a un côté effectivement assez fascinant dans cette résistance acharnée. J'avais trouvé une explication irrationnelle, qui a un rapport avec Buis. Je me suis dit que, en écrivant son histoire et en la connaissant mieux, il se trouve que les dates auxquelles elle a eu des attaches particulières en Italie, en 72 quand elle y est allée la première fois, en 74 quand elle s'y est installée et en 76 quand elle y est morte, correspondent à des dates où moi-même j'allais en Italie du Sud pour voir mes grands-parents.
Ah d'accord. Exact.
Donc et je me souviens, mais est-ce que c'est un souvenir reconstitué, je ne sais pas, d'avoir vu sur le trajet en train un panneau Pérouse, mais peut-être que ça c'est un souvenir reconstitué. Et comme aurait dit mon analyste, je me suis dit qu'il y a eu une communication des inconscients et qu'elle a instillé chez moi cet intérêt pour son peuple.
D'accord. Alors revenons aux Apaches. Ils ont résisté.
Tout à fait.
Ils ont été trahis. Parce qu'une fois qu'on leur avait fait des promesses.
Pour qu'ils se rendent, on avait promis au petit groupe qui était avec Geronimo qu'ils pourraient rejoindre leur peuple en Arizona. Et c'est pas ce qui s'est passé. Quand ils se sont rendus, on les a mis dans un train et on les a déportés en Oklahoma. C'est une des raisons pour lesquelles Geronimo s'est rendu. Parce que lui, il voulait continuer le combat jusqu'au bout. Mais on lui a dit... c'est plus la peine parce que ton peuple maintenant il a été déporté.
Ouais.
Faut pas espérer le retrouver en Arizona.
Mm-hmm.
Ils ont été déportés en Oklahoma. Et là, les membres du groupe de Geronimo ont dit c'est pas possible. On peut pas être si longtemps éloigné de nos familles, donc on préfère se rendre. Et Geronimo a dit je peux pas combattre tout seul.
Ouais.
Et donc il a accepté de se rendre pour qu'il puisse rejoindre sa famille. Mais, et c'est là où on rejoint Buis, c'est que il y a 5 personnes de ce groupe de 38, 7 personnes très précisément, il y avait 2 hommes, 3 femmes et 2 enfants. Ont refusé de se rendre. Et se sont enfuis. Au moment du transfert entre l'endroit où les Apaches se sont rendus et la gare où ils devaient prendre le train, il y a une nuit où ils se sont échappés et ils sont partis dans la Sierra Madre mexicaine où ils ont sans doute retrouvé quelques petits groupes qui avaient survécu là-bas. Et ces 7 personnes, plus les petits groupes qui avaient survécu là-bas, sont les ancêtres de Buis.
D'accord. Alors, en quoi l'histoire des Apaches est tragique? Parce que d'un côté, ils avaient les Américains qui voulaient conquérir leurs terres, la fameuse avancée vers l'Ouest, et les Mexicains. Les Mexicains ont...
Oui, tout à fait, bien sûr.
Alors, ils ont fait une alliance objective avec les Américains contre les Indiens. Non.
Alors, il faut dire...
Il faut l'expliquer à nos auditeurs.
Voilà, il faut dire que le mode de vie des Apaches, du moins à l'époque historique, était un mode de pillard. Alors, en gros, ils allaient attaquer les ranchs ou les fermes voisines, ils piquaient le bétail, ils piquaient les chevaux, et de temps en temps, y avait des affrontements, donc ils tuaient les gardiens du bétail. Ce qui fait qu'ils ne se sont pas fait beaucoup aimer, du fait de leur mode de vie. Mais pour eux, ils estimaient ça normal, puisque ces gens-là n'avaient rien à faire chez eux, donc ils allaient se servir chez eux.
Tout à fait.
Mais ils le faisaient aussi aux dépens d'autres peuples amérindiens. Hein.
Oui.
Ils le faisaient aussi chez les Navajos, chez les Hopis, qui craignaient les Apaches de la même façon.
Mmh. Les Apaches ont une réputation d'être des guerriers de très haute volée.
Absolument. Mais ils avaient une éducation qui était très, très, très rude. Hein. Fallait pas être faible chez eux. Hein. Dès les petits garçons, on leur faisait parcourir des kilomètres avec de l'eau dans la bouche. Il fallait pas la boire et il fallait pas la cracher. Et il fallait parcourir un certain nombre de kilomètres avec un périmètre qui s'élargissait avec l'âge.
Donc,
et il y avait une succession d'épreuves de ce type-là pour faire des guerriers puissants.
Et c'est ce qu'ils étaient.
Et c'est ce qu'ils étaient, oui.
D'accord. Alors, revenons à Buis. Pourquoi l'avoir appelé la dernière Apache libre?
Chiricahua, c'est une branche Apache, c'est la branche dont faisait partie Geronimo, qui elle-même est constituée de 4 tribus.
Mm-hmm.
Buis appartenait sans doute à la branche Nedni, ou Chiricahua, ou Bedonkohe, mais on ne sait pas. Bedonkohe, c'était la branche de Geronimo. Et les Dendi, en Apache, c'était Ndenda, ça voulait dire le peuple ennemi. Parce que c'était, dans les Chiricahua, qui étaient déjà les plus aguerris des Apaches, c'était les plus durs. C'est ceux, sans doute, qui ont constitué les petits groupes qui ont résisté dans la Sierra Madre mexicaine. J'ai oublié votre question.
Oui, pourquoi l'avoir appelée la dernière Apache ?
Ah, la dernière Apache libre, parce que c'est une des dernières, effectivement, qui a été capturée. Il y a eu deux autres enfants qui ont été capturés après elle. Elle a été capturée le 4 avril 1932 et le 1er ou 2 juillet 1932, il y a eu l'attaque d'un autre camp Apache beaucoup plus conséquent constitué essentiellement de femmes et d'enfants. Et il y a eu 3 enfants qui ont survécu à ce massacre, hein, parce que c'était un vrai massacre.
Tout à fait.
Et eux aussi ont été ramenés dans le même village que Bouy, qui les a sans doute rencontrés. Pas sans doute, d'ailleurs, on a une photo où il y a deux vachers qui tiennent
les enfants
dans les bras, et Bouy est à côté d'eux. Donc elle a rencontré ces 3 enfants. Il n'y en a qu'un seul qui a survécu, 2 sont morts et un seul a survécu. Mais c'était vraiment les tout derniers qui étaient capturés. Et le petit garçon qui a survécu est mort avant Bouy.
D'accord.
Donc effectivement, de ce groupe-là, c'est la dernière, du moins qu'on connaisse, qui est survécue.
Qui est libre. Donc elle a beau avoir vécu avec les Occidentaux, elle a vraiment été élevée dans sa prime enfance dans la nation Apache.
Jusqu'à ses 4 ans, oui.
Jusqu'à ses 4 ans.
Elle a dit très peu de choses là-dessus. En tout cas, c'était une vie extrêmement difficile parce qu'ils étaient constamment en alerte du fait des Mexicains qui les traquaient dans les montagnes. Alors, ils ne devaient pas faire de bruit. Leurs habitations étaient rudimentaires pour se fondre dans la végétation environnante et qu'on ne les voit pas. Le campement où on l'a trouvé, il y a un explorateur norvégien qui l'a décrit. Il était au bord d'une falaise pour qu'il puisse voir si l'ennemi arrivait.
Ouais.
Donc c'était des conditions extrêmement difficiles. Sur le plan de la nourriture, c'est pareil. Hein, il devait se nourrir beaucoup de végétation locale, de racines, etc. Et de temps en temps, ils allaient capturer un cheval, une mule ou une vache dans les ranchs alentours, mais c'était risqué parce que ils étaient très peu nombreux, très mal armés, et à chaque fois, ils risquaient leur vie.
Alors, est-ce que vous avez des noms de spécialistes de la nation Apache à donner à mes auditeurs, outre vous, dont vos livres sont à Publico? 145 rue Amelot, dans le 11e, métro Oberkampf, République aux filles du calvaire, donc les 3 dont on va parler aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres spécialistes, autres que vous, qui ont écrit de façon intéressante?
Alors, il y a un historien qui s'appelle Edwin Sweeney,
voilà,
qui a consacré vraiment un travail énorme aux Apaches Chiricahua. Il a écrit une biographie de Mangas Coloradas, qui est pour le coup aujourd'hui encore vénéré comme un de leurs chefs les plus prestigieux. Il a écrit une biographie de Cochise et il a publié peu de temps avant de mourir un bouquin sur les dernières années de combat, donc sur Geronimo. Ce qui fait que quand on lit ces 3 ouvrages, on a quasiment toute l'histoire Chiricahua.
D'accord. Alors, Sweeney, S-W-E-N-E-Y. Edwin.
Edwin. Voilà. Alors, ces 3 ouvrages, si je peux faire de la publicité pour un autre éditeur, sont publiés dans la collection Nuages Rouges aux éditions du Rocher.
D'accord. C'est noté. Bien. Alors.
Il y a aussi une personne avec qui j'ai beaucoup correspondu parce que c'est intéressé aux Apaches de Sierra Madre et elle a écrit un des premiers articles sur le sujet et ensuite elle en a écrit d'autres qui s'appelle Linda Sanchez, mais qui a écrit aucun ouvrage traduit en français, donc il faut chercher ses ouvrages en anglais.
D'accord.
Alors elle a écrit des articles et elle a écrit aussi sur une dame qui s'appelle Eve Ball, si je peux en juste en parler deux secondes. Oui, c'était une institutrice de formation et qui, à sa retraite, s'est consacrée à l'histoire des Apaches Chiricahuas. Et donc, elle allait rencontrer les anciens, des gens qui avaient combattu aux côtés de Geronimo, notamment, dans la réserve de Mescalero, là où les derniers Chiricahuas avaient été placés.
D'accord.
Et Linda Sanchez est une de ses élèves. Donc, elles ont écrit un bouquin ensemble qui s'appelle Inde. Inde, ça veut dire le peuple, en Chiricahua, et qui est constitué de témoignages de compagnons, de Geronimo notamment, qui n'est pas traduit en français non plus, mais qui est vraiment une base de référence parce qu'on a leur parole.
Et oui, et ils sont morts depuis. Alors, Bouy signifie œil de chouette ou oiseau de nuit à la vue perçante.
Oui.
C'est ça, hein?
Oui.
J'ai bien traduit.
Tout à fait.
Bien. Alors,
Giovanni... pourquoi ce prénom oui. On ne sait pas. Elle se souvenait... C'est pour ça que j'ai intitulé le livre « Je m'appelais Bouy », parce que quand elle a parlé de... Quand elle a témoigné de son existence auprès de l'explorateur norvégien dont j'ai parlé, qui s'appelle Elgingstad, il l'a interviewé. Alors, il y a 3 ou 4 pages dans son livre où on a la parole de Bouy. Et c'est elle qui dit « On m'appelait Bouy », qui n'est pas un nom chiricahua.
D'accord.
Qui est un nom apache de l'Ouest. Alors c'est encore des apaches, mais c'est un peuple différent des chiricahua. Ce qui ne fait supposer que la population dont elle est issue était constituée essentiellement de Chiricahua, mais il y avait sans doute quelques Apaches de l'Ouest qui s'étaient évadés aussi des réserves
et
qui les avaient rejoints. Parce qu'ils savaient que dans cet endroit-là du Mexique, il y avait un noyau d'Apaches qui vivait librement.
D'accord. Michel Giovanni, nous allons faire une pause et nous allons revenir sur les 2 autres livres. Merci. C'est bon, on est à...
فيتلو جكيا وندني قتلوا أهلي وحياوني ولما حياوني سماوني زينت كلام من تلو جك وندني خرجت عصفور وحداني مسجون في قفص عدي Thank you.
Chers auditeurs de La Rage Dedans, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission avec Giovanni Michel sur les Amérindiens et sur Bouy. Alors, nous allons parler du deuxième ouvrage qui a été publié, si mes souvenirs sont exacts. Alors, attendez, je regarde.
12 ans après, 2021 dans mon
2021, souvenir. Tout à fait. Alors, chez Dizet, Petite Sœur. Alors là, vous avez pris le parti de donner la parole à Bouy.
Alors, je parle à la première personne.
Voilà.
C'est moi qui parle à la première personne. Mais... où j'imagine effectivement l'avoir rencontré. Donc c'est une version très romancée du premier.
Voilà, tout à fait. Mais c'est passionnant parce que toutes les saisons, ça me fait penser au film, ça m'a fait penser à un moment donné à un film Un homme nommé Cheval, où en quatre saisons, on a toutes... vie de la tribu, on a la vie de ce lord anglais capturé par les Indiens et qui devient leur chef à la fin. Je ne vais pas spoiler le film pour ceux qui veulent aller.
Oui, les anciens. Il y a même un deuxième qui a été tourné, Le Retour de l'homme nommé Cheval.
Oui, tout à fait, exact.
Donc, l'acteur s'appelle Harris, mais j'ai oublié le prénom.
On retrouvera ça sur Internet. Alors, chez Dizet, Petite Sœur, pourquoi ?
Alors pourquoi ? Parce que quand le premier ouvrage est vraiment historique. Mmh. Et il y a beaucoup de parties de la vie de Bouy qui sont mystérieuses. On a une vingtaine d'années durant lesquelles on ne sait pas ce qu'elle a fait. D'une part. Et d'autre part, j'avais en quelque sorte une sensation d'inachevé à la fin du premier livre. Pour cette partie mystérieuse et parce que j'avais en fait envie de m'en rapprocher. Et puis, entre-temps, j'ai eu un certain nombre de documents supplémentaires. Je continue d'ailleurs des recherches. Hein. Je suis en train de travailler un troisième livre sur le même sujet à partir de documents que j'ai eus depuis. Et je me disais que pour presque la toucher, ce que j'imagine hein, d'ailleurs dans ce livre, une version romancée me laisserait plus de liberté. Mmh. Et c'était une façon de la voir autrement, de la voir de plus près. Je l'ai appelée petite sœur, bien qu'elle soit bien plus âgée que moi.
Hein. Oui.
Et où j'imagine effectivement l'avoir vue dans son enfance, l'avoir vue dans son adolescence et l'avoir pour finir rencontrée en Italie et la prendre à mon bras dans les rues de Rome, qui est une de mes villes favorites et qu'elle aimait beaucoup aussi. Et c'était vraiment une façon d'être avec elle, vraiment. Mmh.
Ben, écoutez, c'est très réussi, parce que vraiment, quand on a fini Bouy, on a envie de lire la suite, c'est ce que j'ai fait. Et vraiment, je me suis dit, bon, je vais prendre les deux. Et après, je suis tombée sur le troisième, et là, je me suis dit, on va faire la trilogie.
Alors, peut-être en plus, juste sur l'histoire des Apaches, comme vous l'avez vu, c'est quelque chose de très compliqué, qui nous est étranger, qui est lointain.
Et pas tant que ça.
Parler d'elle sous une forme romancée, c'était aussi une façon de la rendre plus accessible au lecteur français. Mm-hmm. Qui, peut-être, pour quelqu'un qui ne connaît pas, il faut peut-être les lire dans l'ordre inverse. La version romancée d'abord, et puis ensuite, pour celui qui veut vraiment connaître l'histoire avec des éléments historiques, prendre Je m'appelais Bouy.
D'accord.
Mais c'est peut-être, le deuxième est peut-être plus accessible. Pour le
deuxième est beaucoup plus accessible que le premier, tout à fait. Mais pour en revenir aux Apaches, vous dites qu'ils sont lointains, c'est vrai, ils sont en Amérique. C'est un peuple qui a fait partie de la nation indienne, qui du Groenland jusqu'en Amérique latine avait son continent à lui, a subi un génocide.
Tout à fait.
Physique, culturel. Mais ils sont proches de nous. Ils sont proches de nous parce qu'ils ont vécu des souffrances et ils les ont surmontées.
Pas tous, malheureusement. Pas tous. Hein. Parce que si vous prenez par exemple l'exemple des Chiricahuas, l'armée américaine s'est quand même acharnée dessus parce que c'était les derniers résistants. Après, comme on en discutait un peu avant l'émission, c'est pas toujours si clair que ça. Il y a un général qui s'appelait le général Crook, qui a participé à ce génocide, parce qu'il les a combattus de façon acharnée et sans pitié, et puis il détestait Geronimo, donc il a
Il a mis le paquet.
Il a mis le paquet. Mais en même temps, une fois la guerre finie, il s'est interrogé sur le sort qu'on leur avait fait.
De les prendre sur le fait de la parole trahie.
Et de la parole trahie, oui. Il a pas digéré que le gouvernement américain dise aux Apaches pour qu'ils se rendent, bah, écoutez, vous allez rejoindre les vôtres, et puis on vous donnera un territoire en Arizona, et qu'à la fin, ils soient déportés en Oklahoma. Et non seulement déportés en Oklahoma, mais Geronimo et son petit groupe, eux, ont été déportés en Floride, dans un premier temps, pendant 2 années en Floride, avant de pouvoir rejoindre les leurs en Oklahoma. Et donc, ils ont été trahis 2 fois. Et effectivement, ce général, à la fin, était devenu un défenseur...
De la cause indienne.
En tout cas, de la cause des Apaches, qu'il aimait, pour lesquels il avait...
De l'estime,
beaucoup d'estime, parce que c'était sans doute parce que c'était un militaire et que les autres combattaient aussi bien que lui.
Oui.
Et il y avait sans doute quelque chose comme ça, mais en même temps, sur la destinée du peuple, il était... Il n'était pas du tout d'accord avec ce que faisait le gouvernement. Il y a un autre général qui s'appelait Howard, qui était un ami de Cochise, qui était un grand chef, et pareil, il respectait beaucoup, beaucoup, beaucoup ce peuple. Mais donc voilà, c'est pas univoque. Mmh. C'est pas univoque. Reste quand même qu'ils les ont combattus, que, comme vous dites, il y a eu toutes les phases de génocide, il y a eu. La déportation, il y a eu la famine, parce qu'on, en tout cas pour les Indiens des Plaines, on a exterminé les bisons. Il y a eu les maladies. Il faut savoir qu'on pense qu'il y a, je ne sais plus quel pourcentage, mais je crois que c'est 50 ou 60% des Amérindiens qui ont été tués par la maladie.
Mm-hmm. L'alcool ensuite.
L'alcool ensuite. Mais parce que, par exemple, la variole s'est répandue comme une
traînée de poudre
sur tout le continent, et des peuples qui n'avaient jamais vu un seul blanc ont été décimés par la maladie.
Ils
n'étaient pas immunisés. De toute façon, la variole, même en Europe, hein, ça a fait beaucoup de dégâts. Donc, il y a eu la maladie, il y a eu la famine, je disais, pour les bisons, il y a eu la déportation, il y a eu les attaques des militaires, bien sûr, et puis ensuite, une fois qu'ils ont été vaincus, on a pris les enfants, on les a retirés de leur famille, on les a mis dans des pensionnats, où on leur interdisait de parler leur langue, on leur coupait les cheveux, on leur mettait des uniformes pour que, surtout, ils ne ressemblent plus à des Indiens, et il y avait un des premiers qui a fondé l'école de Carlisle, qui est restée tristement célèbre, c'était le colonel Pratt, et ce qu'il disait, c'est « il faut tuer l'Indien pour sauver l'homme ».
Tout est dit. Rien à rajouter. Tout est dit sur le génocide culturel. Alors, les Apaches, c'est un peuple, on se sent, grâce à la lecture de votre livre, on se sent proche d'eux. Moi, je me suis sentie proche de Bowie, puisque je viens d'un continent qui a eu à subir la colonisation. Et donc, il y a eu des génocides aussi dans mon continent d'origine. Donc, je me sens proche de son combat. Et vous en faites une héroïne. Vous en faites une... C'est une leçon de courage que sa vie.
Tout à fait.
Voilà. Et quand on prend le troisième ouvrage, qui s'appelle Zingala Nuni, l'orpheline de Wundoni, là, c'est encore plus marquant. Alors, on va revenir sur cet ouvrage en particulier et sur ce qui est arrivé le 29 décembre 1890 à Wounded
Knee. D'accord.
Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ?
Alors, juste un mot, parce que je sais qu'on a choisi une chanson qui s'appelle Zinkala.
Voilà.
Et qui évoque justement cette figure Sioux. Lakota, très précisément, parce qu'ils n'aiment pas trop qu'on les appelle Sioux. Sioux, c'est un nom qu'on leur a donné, un nom que leurs ennemis leur ont donné. Qui était en fait Nadoes Sioux, qui voulait dire comme des serpents. Parce qu'ils avaient une réputation de guerriers qui arrivaient silencieusement dans les campements. Donc, eux préfèrent s'appeler, en tout cas, pour ce peuple-là, les Lakota. La Crota, si on veut prononcer avec l'accent.
D'accord.
Et eux aussi ont opposé une résistance très, très, très forte à l'avancée des troupes nord-américaines. Et en 1890, il y a un prêcheur qui était d'un autre peuple, qui était Paiute, qui s'appelait Vovoka, qui a inventé une danse, la danse des fantômes, dans laquelle il disait « Si vous dansez avec suffisamment de foi et que vous chantez avec suffisamment de foi, les morts vont revenir et les blancs vont disparaître. » ça s'est répandu dans l'ensemble des tribus, et particulièrement dans les tribus des plaines, notamment chez les Lakota. Et le gouvernement, au début, a regardé ça de loin, et puis s'en est intéressé de près, en disant, si ça arrive chez les Lakota, ils vont se révolter. Donc, ils ont envoyé l'armée. Et à la fin 1890, il y avait un chef qui s'appelait Grand Pied, Bigfoot en anglais, qui avait été un des promoteurs de cette danse. L'armée a cerné son camp et lui a dit maintenant, il faut nous suivre, on va vous emmener à Woodenny. Le vieux chef était très malade, il était atteint de tuberculose. Il y avait certains de ses partisans qui voulaient résister. Lui a dit non, je ne peux pas mettre la vie de mon peuple en danger. Donc il a accepté. Et son peuple s'est retrouvé dans cet endroit qui s'appelle Woodenny, qui est actuellement sur la réserve de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud, où je me suis rendu l'année dernière. Et ils ont regroupé là, et petit à petit, d'autres troupes militaires sont venues, entourées, cerclées. Le camp des Lakota. Ils ont picolé toute la nuit, et le matin, ils ont regroupé les hommes, et ils leur ont dit, maintenant, il faut que vous rendiez les armes. Toutes les armes que vous avez. Donc, ils ont ramené, ils ont fait un tas avec leurs armes, et les Blancs ont dit, mais non, il n'y en a pas assez, là, vous en avez caché quelques-unes. Et il y avait un jeune Lakota qui était sourd. Donc il n'avait pas compris ce qu'on disait, et il avait gardé un fusil sous sa couverture. En tout cas, c'est comme ça que qu'on pense les choses se sont passées, et on a voulu lui prendre le fusil. Lui, il n'a pas compris pourquoi, il y a un coup de feu qui est parti en l'air, et à ce moment-là, tous les militaires qui entouraient le camp ont mitraillé. Ont mitraillé tout ce qui bougeait. Donc les femmes et les enfants ont tenté de s'enfuir, les hommes ont tenté de récupérer les armes pour résister et faire en sorte que les femmes et les enfants puissent se sauver. Et la bataille, si on peut appeler ça une bataille, c'est plutôt un massacre, a duré à peine quelques heures, mais les soldats ont poursuivi les femmes et les enfants sur 2 ou 3 kilomètres, en les abattant, en tirant dans le dos, etc. Et il y a eu environ, on ne connaît pas le nombre exact, mais environ 250 morts sur 350 personnes. Une des femmes avait un bébé, elle a couru tant qu'elle a pu, elle a été touchée dans le dos, comme la plupart, et elle a dit, sans doute, hein, elle s'est dit, je veux sauver mon enfant, elle a creusé un trou dans le sol, elle a mis son bébé dans le sol, elle s'est couchée dessus, et il y a eu 3 autres femmes qui, elles aussi, étaient mourantes, qui se sont couchées, elles aussi, dessus, pour protéger l'enfant, qui était dans le trou. Et là-dessus, les soldats, une fois leur massacre terminé, sont partis, et les secours n'ont pas pu arriver tout de suite, parce qu'il y a eu une tempête de neige qui s'est déclenchée pendant 2 jours, et le site était complètement inaccessible, parce que c'était une tempête. Le 3e jour, donc on était, je crois, le 1er janvier, des militaires sont venus pour essayer de ramasser les corps. Et notamment se servir pour prendre les amulettes, les vêtements, etc. Et un des militaires, quand il était sur le champ de bataille, donc, a entendu un enfant pleurer. Il ne comprenait pas pourquoi il y avait un enfant qui pleurait. Et à la fin, ils se sont aperçus que... Capitaine Bartlett, c'est son nom que je cherchais. Ils se sont aperçus que ça venait de sous une sorte de monticule. Ils ont dégagé le monticule, il y avait un corps de femme, 2 corps de femme, 3 corps de femme. Ils ont dégagé les corps de femme et dans le trou creusé dans le sol quasiment gelé, ils ont trouvé le bébé. Et ce bébé, c'était Zinkalanouni. Ils l'ont ramené au camp des militaires et ils ne savaient pas trop quoi faire de ce bébé. Ils l'ont confié à une femme Lakota qui était mariée avec un métis qui tenait un comptoir là. Et sur ces entrefaites arrive un colonel américain, qui ensuite a été promu général, le général Leonard Colby, qui est arrivé après la bataille. Lui, il voulait venir là pour récolter de la gloire militaire. Mais trop tard, le massacre avait été commis. Mais il a entendu parler de ce bébé. Il est allé dans le camp de la Crota, il a rusé comme il a pu, et il a pris le bébé, un peu comme un trophée. C'était son trophée à lui, il n'a pas pu participer à la bataille, il repart avec un bébé. Et bébé qu'il a adopté sous son nom et qu'il a baptisé Elisabeth Margaret. Mmh. Margaret.
Voilà. Et donc c'est...
Elle avait environ 6 mois, six mois, un an, au moment où elle a été...
Et c'est cette passionnante histoire qui fait l'objet du troisième livre. Donc, je voudrais qu'on revienne à Bouy. En fait, le fil conducteur de ces trois ouvrages, ce sont les enfants captifs.
Tout à fait.
Pour Bouy, il y a une documentation moindre. Vous avez eu beaucoup plus de mal pour avoir les éléments sur Bouy que pour Zingala Nouni, qui, elle, était, parce qu'elle était fille de général, était exposée, avait une vie mondaine, parce que la mère avait une vie mondaine. Donc, ça a été beaucoup plus facile pour réunir les éléments sur elle que sur Bouy.
Absolument. Alors, je me suis intéressé à elle, comme vous le disiez, parce que au départ, je voulais comparer en fait le destin de deux filles orphelines, deux peuples différents, mais qui toutes les deux avaient une destinée, dire parallèle, parce que elles étaient orphelines toutes les deux et elles ont été adoptées toutes les deux par des familles blanches. En fait, je me suis vite aperçu qu'il y avait rien de commun entre elles, mais
non.
Le point de départ était ça, était celui-là. Et oui, elle a été exposée, mais dès le début, parce que son père était quelqu'un de connu. Sa mère militait à l'époque pour le droit de vote des femmes, elle était donc connue aussi. Si bien que dès le jour où elle est apparue dans la vie du général, il y a eu des articles qui ont été publiés dans des journaux. Alors quand elle était petite, il y en avait beaucoup, beaucoup. Puis au fil du temps, ça s'est raréfié parce que les gens s'intéressaient un peu moins à l'histoire. Mais quand elle est décédée, ça a été signalé aussi dans les journaux, par exemple.
Oui,
on a une abondante documentation journalistique.
Alors, Zingala... qu'est-ce qu'on peut, sans raconter le livre, parce que je veux donner envie aux gens de lire le livre qui est à la librairie Publico, si je devais résumer en un mot son profil. Allez, on va avoir des termes, psy. Alors, en un mot, s'il faut la caractériser.
C'est
une héroïne.
C'est difficile.
Elle aussi.
Je dirais que je reprends l'oiseau blessé.
Ah.
Un oiseau à qui on a coupé les ailes.
Tout à fait. Ouais. Ça, c'est beau, ça. Ouais. Un oiseau en cage. Tout à fait.
Plus qu'en cage, parce qu'elle a gardé quand même forcément un trauma psychique de ses premiers mois, elle a passé sa vie coincée entre deux mondes. Mmh. Parce que son peuple d'origine, elle le connaissait très peu. Elle a essayé plus ou moins de renouer le contact, mais elle était tellement maladroite avec ses habitudes qu'elle avait eues dans la société blanche qu'elle a été plus ou moins rejetée.
Rejetée, oui, tout à fait.
Elle était coincée dans la société blanche parce que là aussi... Que ce soit son père adoptif ou sa mère adoptive, ils s'en sont servis comme d'une image pour se faire valoir.
Tout à fait.
Et du coup, elle était... faut voir les écrits des journaux de l'époque où on parle de la petite sauvage. Hein.
Mm.
Donc, elle était à l'aise ni dans un monde ni dans l'autre.
Tout à fait. Elle était entre deux mondes, ouais, tout à fait. Mais comme Bouy, c'est une enfant captive à qui on n'a pas demandé son avis et à qui on a imposé une vie. Et, ce sont des héroïnes.
Tout à fait.
Voilà. Oui, ce sont des héroïnes.
Elles se sont... L'une comme l'autre était coincée dans une situation qu'elles n'avaient pas choisie. Et elles ont eu toutes les deux un rapport ambigu avec leurs origines, en fait. Et elles ont porté cette blessure-là toute leur vie.
Bien. Mais écoutez, Michel, Giovanni, je vous remercie.
Je vous en prie. C'était vraiment un plaisir de vous rencontrer et pour évoquer ces figures qui vraiment... Alors, au tout début, si je peux ajouter un mot, vraiment,
oui,
le personnage de Bouy me touche profondément. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais en tout cas, vraiment, je m'en sentais très proche et j'ai eu du mal à rentrer dans la vie de Zingala Nouni. parce que je restais accroché à Bouy. Et ce qui a... Je suis été vraiment l'élément déclencheur qui m'a permis de finir le livre, c'est d'aller sur sa tombe.
Ah.
C'est ce livre-là, j'ai mis longtemps à accoucher, si je puis dire, 4 ans environ. Et il a fallu que j'aille en 2024 la voir là-bas, sur place, sur sa tombe, pour que je puisse terminer le livre.
D'accord.
De la même façon que j'ai pu terminer le livre de Bouy quand je suis allé sur sa tombe en Italie.
Bien. Bon. Eh bien, on vous en remercie.
Donc, je vous rappelle que les vous.
je rappelle que les trois ouvrages sont à Publico. Et
excellente librairie.
Merci. Qui est 145 rue Amelot, dans le 11e, métro République, Oberkampf, au fil du calvaire. Merci Giovanni Michel.
Merci beaucoup à vous.
Merci chers auditeurs de votre fidélité. Faites attention à vous et on vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien. Merci.
Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, interroger les rues d'un gars sans oublier rue de Lafayette, ils vous diront il faut avoir un grain, si les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tard, cela peut arriver aux prophètes, Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi cassez les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perds la tête. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je ne vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse vous donne la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et m'ai joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du toute les Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ce qu'on construit, le musée, l'aura jamais de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans exiger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, j'entends Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les demi de son fils numéro 1. Mais j'excuse l'Élysée si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je ne vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse vous donne la preuve. La rage. Je vous fais serment devant le juge, tu juges, c'est qu'ils m'ont jugé tel qu'un maghrébin. J'étais blousé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour, j'aurais pardonné la puvin. Pourquoi j'ai réagi, s'agit des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui aussi vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu éviter sa banane, m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je ne vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse vous donne la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je ne vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse vous donne la preuve. La rage. Thank you.
j'ai décidé de jeter l'encre. Mon encre. Jeter. Ou cracher. Cracher. Ou vomir. Vomir. Ou
dans le vide absolu et devenir le non-dit, le non-avenu, le non-vierge par manque de lucidité. La lucidité se tient dans mon froc.
Chanson que j'ai commise après avoir vu une toile d'un peintre qui s'appelait Max Ernst.
Son ego si am, o tveninta del corpo che canto la flor, flor de la intervi interni esperan. I la cinvenu c'è mi, aura grec, aura franca, e canto con mi, persa ma voce e diranta del cor esperan.
Esperanto. Ah. Ah. Arbo. Bo. Bo. Boto. Cioccolato. Do. Do. Dento. E. E.
Thank you. mort.